Vous écoutez RTL.
Et tout de suite sur RTL, on se prépare à quitter la Terre. Bonjour Olivier Sanguy.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. Alors c'est Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, qui nous a soufflé cette première question. Qu'a-t-il prédit il y a quelques jours lors d'une conférence à Pékin ?
Eh bien, il a dit que dans quelques centaines d'années, la Terre ne serait plus habitable et il faudra quitter notre bonne vieille Terre, le berceau de l'humanité, pour aller ailleurs.
À cause du réchauffement ?
Entre autres, la pollution. Bon, il faut savoir que c'est un discours que Stephen Hawking tient depuis plusieurs années, donc c'est pas une déclaration comme ça pour faire parler de lui. Ouais. Il estime qu'à un moment, on va épuiser les ressources de notre planète et il faudra trouver un plan B. Il y a des gens qui sont pas d'accord, ils estiment qu'on n'a pas de plan B, qu'il faut rester. Mais lui, il dit un jour, forcément, on devra partir.
Ah, attendez, un jour, pour faire ses bagages, c'est pas pratique, là, j'ai combien de temps pour préparer tout ça ? Pour partir dans l'espace ? En termes de décennies, de siècles ?
Selon Stephen Hawking.
Ouais, bien sûr.
Alors, plutôt de siècles, ouais. Même pour la NASA, ils ont lancé il y a quelques années quelque chose qui s'appelle le 100 Year Starship, donc c'est le vaisseau stellaire de 100 ans. Alors, ce n'est pas qu'il va être prêt dans 100 ans, c'est dans 100 ans, on voudrait en gros avoir les technologies pour commencer.
Et si on devait choisir une planète, on irait où ? La plus proche ? La planète censément habitable la plus proche, c'est Proxima du Centaure, c'est ça ?
Voilà, il y en a une qui serait habitable, alors à prendre avec des pincettes, hein, parce que le serait est très important. Ouais. Proxima, s'appelle Proxima parce qu'elle est proche, hein, tout simplement, c'est quand même 4,46 années-lumière, c'est très 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 loin, c'est 40 000 milliards de kilomètres.
Bon, faut se préparer alors.
L'être humain pourra-t-il coloniser de nouvelles planètes ? C'est la question du jour dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Y a-t-il des planètes au-delà de notre système solaire ?
RTL.
Aujourd'hui, des milliers de ces étranges univers ont été découverts.
Je suis très excité par la découverte de Gliese 436.
La science de pointe des mondes étranges et une météo déchaînée, voilà ce que nous réserve ce voyage à la recherche de planètes extraterrestres ou exoplanètes.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'homme pourra-t-il coloniser de nouvelles
planètes ? N'est pas oublié quelque chose, Thomas ? L'homme pourra-t-il coloniser ?
Ah oui, on emmènera quelques femmes, d'accord.
Oui, d'accord. Okay, bah, vous pouvez dire l'être humain,
c'est
voyez.
C'est vraiment parce que vous assistez. On se pose cette question sur RTL après les prédictions de l'astrophysicien Stephen Hawking. Selon lui, le réchauffement climatique, la pollution, va nous obliger à quitter la Terre d'ici 5 à 6 siècles. Alors, on voit comment les êtres humains s'y préparent avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. Bon, vous nous l'avez dit, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est Proxima du Centaure, la planète qui serait habitable la plus proche. Vous nous avez dit un chiffre, j'ai eu du mal à le digérer. Combien d'années, de centaines, de milliers d'années pour y aller ? C'est encore plus que ça, c'est ça ?
Alors, aux vitesses actuelles, c'est-à-dire si on prend une des sondes les plus rapides qu'on ait envoyées aux confins du système solaire, Voyager 1, on mettrait 80 000 ans. D'accord. Donc c'est un petit peu trop long pour arriver en forme au bout du voyage.
Donc il faudrait inventer une nouvelle technologie déjà. Si on voulait, gardons simplement, parce qu'on va pas se compliquer la vie, cet objectif Proxima du Centaure, il faut inventer quelque chose si on veut y aller.
Il faut en effet inventer même quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Alors il y a des travaux, dans les années 1960-1970, il y a eu toute une vague de physiciens, d'ingénieurs qui ont lancé des associations, qui parfois travaillaient avec la NASA, pour, en gros, on disait, il n'y a pas de limite, on pense. Et ça a été arrêté parce qu'avec le choc pétrolier, on s'est dit on met l'argent dans des choses plus terre à terre, mais il faut quand même savoir penser à long terme, sinon on serait toujours à l'âge des cavernes. Hein. Donc pourquoi pas ? Ça repart un petit peu, parce qu'il y a des milliardaires notamment qui s'intéressent à la conquête spatiale, ils aiment bien rêver plus loin que juste la fusée qui envoie un satellite, même si c'est très utile. Mais il va falloir faire autre chose. Il y a, dans les travaux de pointe, moi j'aime bien ce qu'on appelle la physique d'Alcubierre. Alors c'est un Mexicain, Miguel Alcubierre, il a trouvé un truc dans les équations d'Einstein qui permet de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, mais sans violer les équations d'Einstein. Alors, c'est un peu technique.
Oui.
Et il y a un monsieur qui s'appelle Harold White, qui travaille pour la NASA, qui a imaginé un vaisseau qui utiliserait ce style de physique. Alors, tout le monde a dit « Ah, la NASA, le vaisseau de Star Trek !» Non. Ce monsieur qui travaille pour la NASA, sur un autre truc,
d'accord,
a travaillé dans son coin. Il a fait un truc très sympa. Il a fait un beau dessin. Voilà. Le seul problème de ce machin-là, c'est que ça demande de la masse négative et de l'énergie négative. Et pour l'instant, c'est pas du tout comment faire. On ne sait même pas à quoi ça ressemble.
Alors, ces planètes sont très loin. Proxima est loin. Mars, un peu plus proche. mais quand même, beaucoup plus proche. Comment on fait pour... qu'est-ce qu'on fait des humains qu'on met comme ça dans un voyage pour l'espace? On les endort? On les occupe comment?
Ah, très bonne question. Les endormir, ça a été envisagé. Il faut savoir que d'ailleurs, la NASA paye une petite entreprise américaine qui fait des études sur l'hibernation, pour l'instant des souris, des rongeurs, etc.
Ouais,
pour
on voir voit ça dans possible. Les films de science-fiction, mais...
On le voit. Alors, le gros problème, c'est est-ce que ça sert à quelque chose, finalement? Si le voyage est trop long, oui. Mais si le voyage est de quelques années... Qu'est-ce qui va coûter le plus cher en termes de masse à emmener? Est-ce que c'est de quoi les nourrir, les divertir, les maintenir en forme, ou est-ce que c'est tout l'appareillage pour les maintenir en hibernation? C'est pas certain. La réponse n'est pas certaine.
En plus, si on endort, là pour Proxima, si on endort les humains, j'imagine, je pars, je suis endormie comment, de quelle manière, dans de la glace, mais je vais vieillir. Donc je vais arriver, en fait, je serai toute morte.
Alors, dans la glace, de toute façon, à l'heure actuelle, on meurt hein, quand on cryogénise. Si vous mettez une bouteille d'eau au congélateur, vous attendez, vous ressortez, une... elle a éclaté ouais. parce que la glace est plus grande. Il va se passer la même chose dans vos cellules. C'est pas sympathique.
Non, mauvaise idée. On n'approuve pas.
Mauvaise idée.
Qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, il y a des tas de solutions qui ont été envisagées. Le vaisseau générationnel, ça fait. D'ailleurs, il y a un sujet là-dessus, il y a plusieurs films. Hein. En gros, c'est les petits enfants qui arrivent. Il faut être motivé dans le vaisseau, sinon on part, on sait qu'on n'arrive pas. C'est...
Ah oui, voilà. On se reproduit dans le vaisseau. Quoi.
Voilà, c'est incroyable. Le vaisseau générationnel. Bon, la congélation, l'hibernation.
Amis, hein. Mais ce que je vois là, à vous écouter, c'est que quand même, il y a des cerveaux humains qui se posent la question. Donc, cette question, l'homme pourra-t-il coloniser un jour une autre planète, elle n'est pas totalement absurde.
Elle est pas
il y a des scientifiques qui réfléchissent quand même.
Ce qui est fascinant dans ce sujet, c'est qu'il y a des scientifiques qui vont dire c'est absurde, et il y en a d'autres qui vont dire oui, on va y arriver, même à une échéance de 100-200 ans, ce qui est très optimiste, mais pourquoi pas? Moi, personnellement, je pense qu'on n'a rien à y perdre, parce que quand on a voulu voler comme les oiseaux, au départ, on pensait qu'il fallait copier les oiseaux, on se mettait des plumes sur les bras, on jetait du haut d'une falaise, et puis on s'écrasait. Mais c'est à force de faire ça et de se tromper qu'on a trouvé le bon moyen de le faire un jour, donc pourquoi pas?
Le vaisseau intergénérationnel, je crois que c'est dans un roman de Bernard Werber. C'est Coralie Lutinier, notre productrice.
Papillon des étoiles,
Le papillon
c'est ça,
des étoiles. Donc, vous voyez, il y a aussi des écrivains qui y pensent. Alors, on imagine une découverte scientifique, une nouvelle technologie qui permet de coloniser une nouvelle planète. Okay. Mais alors, comment on peut être sûr de bien choisir la nouvelle maison? Voilà, on va répondre à cette question tout de suite sur RTL.
Sia sur RTL, dans un instant, Sanda's Coming For Us.
Bon après-midi sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Rendez-vous du lundi au jeudi à 20h sur RTL avec les invités de l'heure du crime. Notre mission, expliquer, décrypter, comprendre les mystères des grandes affaires criminelles qui font la une de l'actualité. Avec les enquêteurs, les magistrats, les avocats, les experts et les archives sonores de la rédaction.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. RTL, première radio de France.
14h-15h.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On voyage dans les étoiles sur RTL avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité des Étoiles de Toulouse. Et avec vous, c'est génial, on imagine une nouvelle phase de la conquête spatiale, la colonisation d'une planète par des humains. D'ailleurs, comment choisir notre nouvelle maison ?
Ah bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de guide. Hein. Donc, de quelle est la bonne planète?
Il y a beaucoup d'offres en plus, avec pas beaucoup de photos.
L'offre est gigantesque. À l'heure actuelle, on a répertorié 3000 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont en dehors de notre système solaire, qui tournent autour d'autres étoiles. Sur ces 3000, il y en a une bonne dizaine qui seraient habitables. C'est-à-dire
parce qu'elles
près.
Ont des étoiles?
Elles tournent autour d'une étoile, pas trop près, parce que trop près fait trop chaud, pas trop loin parce qu'il fait trop froid. Mais il y a des tas d'autres paramètres et on ne peut pas trop les vérifier pour le moment. Avec de futurs télescopes, on commencera à en vérifier certains. Mais l'offre est sans doute énorme. Imaginez, dans notre galaxie, il y a 100 à 200 milliards de soleils. Chaque soleil a sans doute des étoiles. Même s'il y a une infime portion qui est habitable, ça fait quand même pas mal de bonnes adresses.
Je disais qu'il n'y avait pas de photos comme dans une
agence
immobilière.
On va créer une agence, vu le marché.
On va s'y mettre. Mais en fait, il y a quand même quelques clichés des exoplanètes. On peut voir à quoi elles ressemblent, au moins la silhouette.
Oui, c'est décevant. C'est un point de lumière, en gros. Hein. Ce qui compte, c'est les données, les chiffres. C'est ça qui intéresse les scientifiques.
Pardon, Lily Sanguy, je vous interromps, mais il y a des photos. Grâce à quoi? Grâce aux super télescopes, c'est ça qui ont...
Oui, grâce même à des télescopes terrestres. Hein, par exemple, le Very Large Telescope, qui veut dire très gros télescope. Hein, tout simplement. Il est au Chili, c'est un télescope européen, de l'European Southern Observatory. En fait, c'est quatre grands télescopes qui travaillent ensemble.
Hein. D'accord.
C'est une installation extraordinaire que j'ai eu la chance de visiter. Vous avez l'impression d'être sur Mars, là-bas. Tout simplement, c'est un désert. Bon, mais... En fait, ce qui intéresse les scientifiques, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on va décomposer la lumière que cette planète renvoie de son soleil. Et là, on va pouvoir savoir s'il y a une atmosphère l'atmosphère, s'il y a de l'eau, s'il y a de l'oxygène, etc. Alors pour l'instant, on est limite. Les prochains grands télescopes, nous Européens, on en prépare un de 40 mètres, pas loin du VLT dont je viens de parler. Et avec les Américains, on va faire le James Webb Space Telescope, JWST, qui devrait décoller au sommet d'Ariane 5 en 2019.
Ce qui est important dans cette projection-là vers le futur, c'est la coopération internationale. En fait, on n'y arrivera jamais tout seul. C'est ça. C'est vraiment un projet de l'humanité dont on parle.
Oui, et pour deux raisons. Vous avez raison de le souligner. Parce que d'abord, les budgets sont assez importants. Le James Webb Space Telescope, c'est plusieurs milliards de dollars. Ensuite, on veut mettre les compétences. C'est-à-dire qu'en Europe, nous, on a certaines compétences, on est meilleurs que les Américains sur certains domaines. Les Américains, eux, sont meilleurs sur d'autres, les Japonais sur d'autres. Et en mettant comme ça, chaque scientifique de chaque pays apporte sa super compétence, je dirais, on arrive à un travail d'équipe qui est meilleur que chacun de son côté.
Bon, imaginez Olivier Sanglis, ça y est, on a choisi notre planète, on est parti. Là, est-ce qu'il faut recréer, pour qu'on puisse s'installer sur cette planète, les mêmes conditions de vie que sur Terre, pour qu'on puisse vivre ?
Alors ça, c'est ce qu'on appelle la terraformation. C'est-à-dire faire une planète qui n'est pas propre pour l'existence humaine, la faire pour nous. On l'envisage pour Mars. Il y a des gens qui disent que c'est impossible. C'est-à-dire le niveau d'énergie est tel qu'on n'y arrivera pas. Il y en a qui disent si, on pourrait y arriver. Donc là, il y a débat. Moi, j'ai rencontré un géologue en France, hein, Monsieur Pierre Thomas, il dit non. Impossible. D'autres qui disent si, on pourrait. On verra. Mais c'est vrai que le problème, ce sont les niveaux d'énergie, même pour le voyage. En tout cas, Mars, on pourrait faire, mais le voyage vers d'autres étoiles, les niveaux d'énergie sont tels que certains scientifiques disent on est prisonnier à jamais du système solaire. Le niveau d'énergie requis est inatteignable.
Pour
c'est
en sortir.
Un peu pessimiste.
Oui. Et alors, si on se dit c'est pas possible d'aller aussi loin, Proxima du Centaure, etc. Donc, on se dit allez, Mars, on va coloniser Mars. Dans le film Seul sur Mars avec Matt Damon, il fait pousser des patates. Tout seul comme un grand, avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire ses propres excréments et de l'eau qu'il récupère. C'est possible ça ? C'est plausible ?
C'est plausible parce que Andy Weir, qui est l'auteur de ce roman, s'est basé sur des travaux de la NASA. Et il est vrai qu'on pense que dans l'avenir, pour les missions, il faudra utiliser les ressources locales. Et notamment avoir un potager. On a déjà fait des expériences dans la station spatiale internationale actuellement. Il y a de la salade qui pousse et ils mangent de la salade. C'est la première fois qu'on mange de la salade. Les Russes l'avaient fait un petit peu avant, mais là c'est un protocole plus strict. Donc pourquoi pas ?
Il nous faut de l'eau absolument.
Oui,
c'est
alors
la base, en fait.
Il y a peut-être de l'eau dans le sol de Mars, dans le sous-sol sous forme de glace ou alors en condensant l'atmosphère. On peut y arriver. En tout cas, on la recycle. Sachez que les astronautes dans la station spatiale internationale boivent leur urine recyclée.
Non. C'est un appareil qui arrive à transformer.
C'est un appareil, oui. Et ça peut avoir des applications sur Terre pour rendre potable de l'eau qui est contaminée.
Ben voilà, ça ouvre des perspectives, si j'ose dire. Donc, si on est toujours sur Mars, on a de l'eau, on a peut-être des fruits et légumes. Est-ce qu'on a des protéines ? Comment on trouve des protéines ? Parce que moi, je pense aux animaux. Il n'y a pas de vie sur Mars, il n'y a pas d'animaux. On fait comment ?
Alors ça, c'est une question que les nutritionnistes étudient. On sait qu'il y a des compléments alimentaires, des alternatives. Mais la protéine, l'élevage, pour l'instant, ce sera vraiment le pas après la serre, on va dire. Donc, ça va être assez compliqué, je ne vous le cache pas. Pour l'instant, pour ce qui est de la protéine, pour ceux qui veulent de la viande, c'est clair, ça va être du lyophilisé ou du congelé. Plutôt du lyophilisé, ça demande moins d'énergie.
C'est des végétariens qui vont être contents. En attendant de parcourir ces milliers d'années-lumière, le vol spatial se démocratise. On monte à bord des fusées privées sur RTL. Restez avec nous pour ce grand voyage.
Vous écoutez RTL.
Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
La curiosité est un vilain défaut.
Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
La curiosité avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse et grand fan de films de science-fiction. Donc je ne vais pas vous coller, c'est un extrait de
Star Trek, la série télévisée originale.
Que l'on vient d'entendre. Tiens d'ailleurs, est-ce que les scientifiques peuvent puiser dans les films de science-fiction une source d'inspiration ?
Oui, clairement, ils disent que ça les inspire. D'abord, quand ils sont jeunes, ça les pousse vers leur métier, beaucoup l'ont dit, même les astronautes. Et ensuite, l'écrivain de science-fiction s'inspire des scientifiques et il inspire les scientifiques. Ils sont sous la douche, en quelque sorte. Et donc, il y a comme ça, chacun aide l'autre. Mais l'humanité marche comme ça depuis très longtemps.
Ouais, alors on va revenir à des questions beaucoup plus prosaïques, puisque si on vous a demandé de venir dans la curiosité sur RTL, c'est parce que Stephen Hawking, grand astrophysicien, prédit la Terre, enfin voit la Terre comme une boule de feu incandescente dans 500 à 600 ans à cause du réchauffement climatique, à cause de la pollution, etc. etc. Donc ce n'est pas un prédicateur fou qui se demande comment on va coloniser une autre planète, c'est un grand astrophysicien et on voulait savoir si c'était possible. Mais si ça devait arriver demain, pardon, je préfère ne pas jouer avec ces idées-là, mais bon, est-ce qu'on aurait une destination, un vaisseau, un moyen de quitter la Terre ?
Ben pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre, ni destination, ni vaisseau. On réfléchit au vaisseau. Bon, il y a l'initiative 100 Year Starship qui a été lancée par la NASA il y a 2 ans avec des sous de la DARPA, l'agence de recherche de l'armée américaine. Ouais. Et le but, c'est de défricher les technologies qui seront nécessaires d'ici un siècle pour faire un vaisseau vers d'autres étoiles.
Parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'humains qui montent à bord d'un vaisseau spatial pour aller, par exemple, sur la station internationale au max ?
Au max, c'est 3 avec le Soyouz russe. C'était 7 avec la navette spatiale américaine, mais qui a arrêté de voler en 2011. Ouais. Peut-être ça va reprendre bientôt avec des vaisseaux américains. Certains sont privés. Donc, c'est 6 maximum. Donc, on est loin de pouvoir emmener une grosse partie de l'humanité.
Alors, non seulement on ne pourra pas vraiment quitter la Terre, mais ceux qui pourront quitter la Terre, ils pourront aller jusqu'où ? Quelle est la destination la plus lointaine atteinte finalement par un objet construit par l'être humain ?
Alors, habiter, c'est la Lune, oui. Programme Apollo, hein, ouais. Ça, bientôt ça aura 50 ans. Un objet, c'est le plus loin, c'est la Lune Titan. Là, c'est européen, c'est la sonde Huygens qui a été transportée par une sonde américaine Cassini. Mmh. Et c'était début 2005, on s'est posé donc à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Donc l'atterrissage
donc,
le plus loin...
Titan, c'est une lune de Saturne.
Lune de Saturne, c'est ouais. La plus grosse lune de Saturne. Donc l'atterrissage le plus loin dans le système solaire, c'est nous les Européens. C'est quand même fantastique. Hein. Après, l'engin le plus loin à l'heure actuelle, c'est Voyager 1. Il est à 20 milliards de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire qu'il faut encore faire ça 2000 fois pour arriver à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche.
D'accord. Et il n'y a personne à l'intérieur, on le rappelle. Heureusement, avant de partir aussi loin, on va peut-être, en tout cas les gens très très riches, pouvoir voler dans l'espace grâce au vol privé. Il y a beaucoup de compagnies ou de sociétés, on va dire, qui essayent de démocratiser le voyage spatial, le vol spatial.
Oui, il y en avait beaucoup, il y en a un peu moins parce que certaines se sont arrêtées faute de fonds et de ouais. Sérieux dans leur programme. Alors aujourd'hui, il y en a en gros 3. Il y a Space Adventure aux États-Unis qui vend en fait des places dans le Soyouz russe. Et ça, c'est 40 millions de dollars pour passer une semaine dans la station spatiale internationale.
Là, ce n'est pas des gens très riches, quoi. Ils sont 100 sur la planète à pouvoir se le payer.
Okay. Il y a eu 7 clients jusqu'à maintenant quand même. Dont quand un même. Qui a volé 2 fois, Charles Simonyi, un Hongrois, mais on va comprendre pourquoi il a pu le faire. C'est l'un des co-inventeurs des programmes de Microsoft.
Ok, d'accord.
Donc ça aide.
Donc il y avait un lien.
Ensuite, il y en a 2 autres. Virgin Galactic, créé par Richard Branson. Donc ça, c'est un avion-fusée. Mais là, on ne se met pas sur orbite. On dépasse les 100 km, c'est la frontière de l'espace. Mmh. On est en impesanteur pendant 5 minutes. On voit la courbure de la Terre, le ciel est noir. Comme un astronaute pendant 5 minutes. Et on revient de là où on est parti quasiment.
Et ça coûte ?
Et ça coûte 250 000 dollars annoncés. Mais ils ont eu quand même, malheureusement, un pilote d'essai tué il y a 2 ans, je crois, lors d'un accident. Mais il recommence à voler. Et il y a le Challenger, Blue Origin, qui est bien moins connu. Là, c'est classique, une capsule au sommet d'une petite fusée. La fusée est réutilisable, c'est l'astuce. On monte à 100 km, pareil, la Terre, on flotte et tout, on redescend sous parachute.
On revient à pied ?
On redescend sous parachute, heureusement, parce qu'à pied, ça serait difficile. Les prix ne sont pas annoncés, mais derrière, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, le fondateur d'Amazon, hein, monsieur Jeff Bezos. Et en fait, il a mis plusieurs milliards de dollars dans cette compagnie.
Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci Olivier Sanguy. La Cité de l'Espace de Toulouse, c'est une bonne idée de visite avec vos enfants si vous êtes dans la région ou pendant les vacances de Noël. Allez voir l'exposition Astronautes qui permet de découvrir le quotidien extraordinaire des astronautes dans la Station Spatiale Internationale.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr pour nous faire découvrir à vos amis et vos amis extraterrestres.
Mais oui, pourquoi pas, on s'en offre demain à 14h. Ben on va s'offrir autre chose, un Tea Time avec Michel Polnareff, la saga du génial amiral et l'histoire du thé, ça promet.
Tout de suite, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand, RTL, il est 15h.